Interview. 1. Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour.
À l'écoute de RDWA sur le 107.5 FM et sur internet www.rdwa.fr, je suis avec Sylvie dans le studio. Bonjour.
Bonjour.
Et on va parler de ces émotions négatives qui nous traversent depuis au moins une bonne année, plus optimistes, j'allais dire. Sylvie, tu es praticienne gestalt.
Oui,
gestalt.
Tout à fait.
Voilà. Parle-nous-en vite fait. Qu'est-ce que c'est que cette pratique ?
Alors, la gestalt, c'est une psychothérapie humaniste. Donc, ça se fait en cabinet, en tête-à-tête, où on va travailler sur les difficultés que rencontre une personne dans sa vie pour l'aider à les dépasser, voir les besoins qui ne sont pas comblés, voir ce qui est difficile, compliqué pour elle.
Ça s'appuie sur une méthode un peu particulière. Pourquoi ça a ce nom ?
Alors, cette méthode a été mise au point par un psychiatre qui s'appelle Fritz Perls et son épouse aussi, Laura Perls. Et ils ont mis cette technique au point dans les années 1950 aux États-Unis. Alors, c'est une méthodologie. Ouais. Il a développé des outils, bien sûr, pour pouvoir réussir à se changer, à se transformer, ne plus rester dans nos mécanismes, ne plus rester dans nos peurs, ne plus rester dans les difficultés qui nous empêchent d'avancer dans notre vie et atteindre nos objectifs.
Est-ce que tu peux nous citer quelques outils comme ça ?
Alors, il y a un outil qui m'a beaucoup aidée en début, c'était qu'est-ce que je ne veux plus dans ma vie ? Voilà. C'est faire le point sur ce qu'on ne veut plus. Et de là, le transformer en quelque chose de positif. C'est-à-dire, si je ne veux plus ça, alors qu'est-ce que je veux à la place ? Et c'est se faire une liste de tout ce qu'on souhaite voir dans notre vie, nos changements, nos qualités.
Et donc, c'est forcément un processus où on travaille avec quelqu'un.
Voilà, hein, on travaille avec quelqu'un.
Bien,
voilà.
On ne peut pas le faire seul.
C'est mieux de se faire accompagner.
Ouais, ouais.
Parce que notre inconscient n'aime pas le changement. Donc, lui va être en résistance par rapport à tout ça. On peut avoir des bonnes décisions, des bonnes volontés, comme au jour de l'an. On pose de nouvelles intentions.
Ah oui, les fameuses résolutions, voilà. Jamais réalisées.
Voilà, c'est parce que en fait, nos habitudes font que ça crée des résistances au changement. Et notre inconscient, lui, n'aime vraiment pas le changement. Pour lui, tout ce qui est inconnu, tout ce qui est nouveau, tout ce qu'il maîtrise pas, il en veut pas. Donc effectivement, il y a des résistances. Et c'est en thérapie qu'on va pouvoir dépasser ces résistances-là, voilà, et atteindre des objectifs. Enfin.
Alors, ça tombe très bien avec le sujet avec lequel tu voulais donc t'exprimer aujourd'hui sur cette question de ces émotions négatives. Parce que si notre inconscient n'aime pas le changement, alors là, on a bien compris que rien n'allait bouger en 2021 par rapport à 2020, où les gens attendent qu'il y ait un monde d'après, soi-disant.
Oui, c'est ça. Si on construit un monde qui n'est pas bienveillant, qui ne tient pas compte de nos besoins, ça va être compliqué de mettre en place quelque chose de complètement différent, à l'opposé.
On pourrait avoir un paquet de choses qu'on ne veut plus de 2020.
Un paquet de choses. Dont la peur, le stress, l'angoisse, ouais. L'anxiété, l'insécurité. Au moins, toutes ces émotions-là, c'est... C'est important de réussir à comprendre comment elles arrivent en nous, comment elles naissent, et de comprendre que ça n'est pas une fatalité de les vivre au quotidien. C'est possible de rentrer dans d'autres émotions, plus positives, on va dire, et qui vont créer du bien-être en nous. C'est, à mon sens, fondamental de sortir même de ces émotions négatives parce que ça a un impact très, très, très important sur l'organisme, et d'aller vers quelque chose de plus réjouissant en nous, quoi. D'aller vers le bien-être, d'aller vers la joie, d'aller vers la satisfaction, toutes ces émotions qui font du bien à notre corps.
Et quand on est en phase de restriction, comme maintenant, est-ce que c'est encore possible ?
Oui, oui, oui. Oui, c'est possible. C'est possible de le faire et c'était aussi voilà, le but de cette démarche, de venir vous voir. C'est qu'il y a plein de petites choses qu'on peut mettre en place pour nous, chez nous, dans notre quotidien, dans notre maison, dans notre petite vie. Et c'est même pour moi vraiment, vraiment important de le faire aujourd'hui plus que jamais.
D'aucuns diraient que si on s'en sort comme ça, tout seul, avec les méthodes que tu vas nous donner, alors... L'État, le gouvernement aura gagné, à la fois hyper restrictif, mais bon, globalement, psychologiquement, on s'en sortira bien.
Change-toi et le monde changera, disait un grand philosophe grec.
C'est bien.
Alors, je me dis que oui, si on va vers quelque chose de meilleur pour nous en tant qu'individu, ça va impacter notre façon de vivre et ça va impacter la société dans laquelle on vit. La somme des individus fait que bah, ça va créer une société différente. Si en nous, on commence à s'éduquer à la bienveillance, à la satisfaction, à la joie, à l'humour, toutes ces choses-là, si les 7 milliards d'individus qu'on est sur cette Terre sont dans cette même démarche, alors oui, effectivement, le monde là va pouvoir changer. J'y crois, en tout cas.
Est-ce qu'à l'inverse, tu penses que c'est parce que les populations se morfondent qu'on en arrive là ?
Pour moi, on est dans un mode survie. Tout ce qui est émotion négative nous plonge dans un processus de survie. Et la survie, c'est le stress. Vivre en mode survie, c'est vivre stressé. Et c'est vivre aussi en mode victime. Alors, soit on est en mode fuite, dans ce cas-là, on va soit s'intérioriser, soit se renfermer, soit se mettre la tête dans le guidon en travaillant plus, soit on va être dans des excès d'activité, de divertissement, ou alors on va rentrer dans le mode attaque. C'est les deux processus dans le stress, dans le fonctionnement de la survie. Et l'attaque, ça va se manifester par de la critique, et tout le temps dans le jugement, de la colère. Ça va être avoir de l'agressivité envers soi-même ou envers les autres ou envers le monde. Et plus on va être en état de stress, plus on est à même de développer de l'agressivité. Donc... Ouais, je pense que tout ce qui se passe en ce moment ne fait que renforcer nos parts d'ombre, notre côté animal. Ça renforce aussi notre égoïsme, parce que quand on est dans ce fonctionnement-là, et ben, quand on est en mode survie, et ben, c'est on veut tirer la couverture à soi, on veut la protection. C'est chacun pour soi. Donc on est dans des comportements qui nous divisent. Et je ne pense pas que ce soit les bonnes solutions pour créer une bonne société. Là, je pense qu'on rentre, pour moi, on est en train de rentrer dans un cercle vicieux.
Et pour autant, on voit quand même encore un peu des grands moments de solidarité. Quand on a vu les inondations dans la Roya, par exemple, bon ben... Les gens étaient encore capables, tout d'un coup, de s'aider sans distinction. Mais alors, bon, comment est-ce qu'on quitte ces émotions un peu négatives, comme tu nous le dis, Sylvie ?
Alors...
Par exemple, la peur. Enfin, on pourrait prendre celle-là.
La peur, c'est un besoin de sécurité qui n'est pas assouvi. En fait, il faut comprendre que nos émotions sont les témoins lumineux de besoins nourris ou non nourris. Par exemple, si je suis dans la satisfaction, ça veut dire que mon besoin de réalisation est nourri. Si je suis dans la peur, c'est peut-être que mon besoin de sécurité, là, n'est pas nourri. La peur du manque d'argent, la peur de perdre mon travail, des choses comme ça. Donc, en fait, il y a un besoin derrière qui cherche à s'exprimer. Donc, voir les émotions comme des alliés, comme vraiment, comme sur une voiture, par exemple, le tableau de bord d'une voiture, vous allez avoir le témoin lumineux qui nous dit que la réserve d'essence est vide ou que qu'il manque de l'huile.
Mais concrètement, c'est un problème.
Voilà.
Dans pas longtemps, on tombe en panne.
Voilà.
Mais on est averti.
Voilà. Alors, soit on est là dans notre voiture en train de regarder le voyant lumineux et on est en panique et mon Dieu, qu'est-ce que je fais ? Mon Dieu, c'est horrible ce qui m'arrive. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ou alors on se dit, OK, c'est parce que là, il faut que je mette de l'essence ou que je mette de l'huile. Bon, bah, c'est ce qu'on fait. Voilà. Et du coup, le besoin de la voiture est nourri et le voyant s'éteint. Donc, pour nous, ça marche de la même façon. Alors, si on occulte nos émotions, si on essaye de les éteindre, si on essaye de les inhiber, on va rentrer dans un état de frustration. Parce que notre besoin, lui, derrière, il tape toujours à la porte. Il ne se sent pas entendu. Donc, on crée un état de frustration. Et cet état de frustration va nous basculer dans le stress. On va rentrer là dans le mode survie et donc attaque ou fuite. La fuite de notre besoin, on se met la tête dans le guidon, ou l'attaque, ça va être rendre responsable le monde extérieur, notre environnement.
Ou une agression sur soi-même.
Ou une agression, après, oui, sur
voilà.
soi-même.
Suicide,
voilà,
plongé dans la drogue.
Bah, les addictions.
Addiction,
toutes les addictions, c'est une façon d'éteindre, effectivement, nos émotions, donc nos besoins inconscients. C'est pour ça que d'aller en thérapie, par exemple... Ça a cet avantage de comprendre quel besoin est derrière tout ça. Qu'est-ce qui s'exprime en nous qu'on ne comprend pas, qu'on n'a pas vu ? L'identifier pour pouvoir ensuite, dans sa vie, poser un acte, mettre en place des choses qui vont nous satisfaire, nous nourrir.
Pour rester un peu sur la peur et sur cette période très précise de l'apparition du Covid-19 en 2020 et tout ce qui s'est enchaîné derrière, on voit, j'ai le sentiment que c'est un peu l'émotion prioritaire et qui guide à la fois les gouvernements, mais aussi les populations à exécuter ou pas, notamment le protocole sanitaire, par exemple. De quoi est-ce qu'on pourrait dire que globalement la société ou les sociétés occidentales ont peur, selon toi ? Et donc, quel est le besoin ? Est-ce que c'est cette peur primale de la mort, toute bête
Alors oui, très souvent, il y a la peur de la mort, effectivement. Donc, notre inconscient nous pousse toujours à avoir tout ce qu'il faut pour se sentir en état de vie, dans la survie. En tout cas, pour moi, les gouvernements jouent sur nos peurs et donc nous mettre dans une sensation d'insécurité. Parce que ça nous permet de devenir, d'accepter plus de contrôle. Quand on a peur de notre environnement, on cherche à le contrôler. Donc, on va accepter davantage de contrôle, ça va nous rassurer. Pour moi, c'est une fausse sécurité. Parce que ça fait que générer encore plus de peur, en fait. C'est vraiment rentrer dans un cercle vicieux. C'est si on ne va pas vers des choses qui nous font du bien, je pense que si on reste dans les émotions négatives, avec les peurs, les choses comme ça, et qu'on essaie juste de mettre des pansements, de palliers comme ça... En fait, c'est pour moi, c'est pas les bonnes solutions. C'est vraiment au niveau individuel, c'est comment je peux me rassurer, avoir suffisamment confiance en ce que je suis, en mes potentiels, en mes valeurs, en mes ressources, pour ne plus avoir besoin de mettre des sécurités de partout autour de moi. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question.
C'est une réponse. Alors, tu nous as ramené plein de papiers.
Oui, plein de papiers.
Par exemple, pour nous dire un peu vers quelles belles émotions positives on pourrait aller.
Alors, c'est surtout peut-être plus quelles sont les petites choses à faire dans notre quotidien pour réussir à aller vers un peu plus de bien-être. Parce qu'il y a plein de petits outils et il y a plein de petites choses qu'on peut faire qui sont accessibles à tout le monde. Se faire du bien, c'est possible tous les jours, voilà, et sans que ça demande forcément des gros moyens.
Dès le lever ?
Oui, alors dès le lever. Moi, je me suis rendu compte que la musique me faisait énormément de bien. Et me mettait dans un état de joie, de peps, de dynamisme. Et j'étais boostée pour la journée. Donc ouais, la musique par exemple.
De la musique au réveil plutôt que les infos nationales.
Voilà, surtout. Effectivement, oui. C'est une première condition. Se faire du bien au matin. Ça va être aussi mettre du beau autour de soi. Voilà, faire en sorte que son intérieur soit joli, soit propre, faire aussi ranger les choses. Ça, c'est important, ça crée du stress dans notre cerveau, ça. Le fait qu'il y ait du fouillis en permanence, le fait qu'il y ait des choses en attente de réparation et qui traînent depuis 6 mois, 1 an, 2 ans dans un tiroir et dont on s'occupe jamais. Au bout d'un moment, c'est prendre la décision de s'en débarrasser ou de le réparer. Parce qu'en fait, le signal dans notre cerveau est toujours là. À partir du moment où on passe devant le tiroir ou...
La procrastination est sujet de stress.
Ouais, la procrastination est sujet de stress, oui. Donc c'est...
Contrairement à ce qu'on pense, parce que la flemme, a priori, cet état de repousser, on a l'impression que on est très tranquille et très cool avec tout ça et qu'on s'en fout un peu.
Ouais, mais en fait, non, parce que moi, quand je procrastine, je suis pas contente de moi, je culpabilise, je suis dans l'insatisfaction. Donc non, ne pas procrastiner, ça c'est aussi quelque chose qu'il faut dépasser. Il y a aussi se couper un peu de toutes ces informations, on va dire, dures. Moi, je sais par exemple que j'ai plus la télé et j'ai plus la radio à la maison. Je ne veux plus laisser entrer des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Donc, je m'informe différemment quand moi j'ai décidé, au moment où je l'ai décidé.
Sur quelle source ?
Souvent, je me renseigne auprès de mon entourage qui, eux, s'informent avec les médias et tout ça, ou alors je vais sur Internet. Parce que je trouve que ce qui est véhiculé au quotidien, toute la journée, par les médias, c'est du trop lourd. Ça nous met trop... Moi, quand j'écoute, je me retrouve en état de stress, d'inquiétude, de peur, d'insécurité, c'est évident.
Mais est-ce que ces informations sont intéressantes ? Ou est-ce qu'elles ont comme seul objectif, tel que tu sembles dire, de mettre les populations en stress et de jouer avec leur peur ?
Il y a effectivement de l'information concrète qui nous permet d'être informés et de savoir ce qui est à faire et ce qui est à ne pas faire. Mais après, sorti de là, pour moi, c'est du bourrage de crâne, c'est du lavage de cerveau. Et on va trop dans... On cherche trop à faire du sensationnel. Alors, est-ce que c'est un besoin de faire de l'audimat ? Est-ce que j'en sais rien ? Mais ce que je constate, c'est que l'impact est négatif. Et qu'il faut réussir à prendre du recul par rapport à tout ça. Donc, quand on a la télé en permanence allumée chez soi, ou la radio en permanence allumée chez soi, on est impacté en permanence. On ne peut plus prendre de recul. On subit. Et c'est vraiment reprendre du contrôle sur ces choses-là. C'est quand et comment je veux être informée. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut décider. Voilà. Je n'ai plus la télé aussi parce que pour moi, ce que j'y vois, que ce soit les séries, les films et tout ça, c'est devenu moche. Il y a trop de violence, moi, d'entendre des coups de feu dans les séries, d'entendre des gens crier, de voir cette violence au quotidien. Pour moi, ce n'est pas normal. C'est comme si, quelque part, il y avait une banalisation de tout ça, de la violence, de la vulgarité. Quand j'entends les acteurs parler, c'est vulgaire. Je ne comprends pas qu'on puisse accepter des choses pareilles. En tout cas, moi, j'ai décidé de ne plus l'accepter. Ni pour moi, ni pour mes enfants. Par contre, ce que je fais, c'est que effectivement, j'ai mon ordinateur à la maison et j'adore les documentaires. Tout ce qui est documentaire, qui me mettent dans la joie, qui me mettent dans l'émerveillement. Tout ce qui est les voyages, documentaires sur les voyages et tout ça. La connaissance, j'adore la connaissance, donc soit les documentaires animaliers que je regardais avec mes enfants quand elles étaient plus petites, ou tout ce qui est les Ushuaïa Nature ou les Échappées Belles. Je me suis fait cet hiver, là, à Noël. Ça a été une période un peu difficile pour moi. Donc, je me suis fait une série de documentaires sur tout ce qui était les îles du Pacifique, les Bahamas et tout ça. J'avais besoin de voir des lagons, du bleu turquoise, des cocotiers, des palmiers. Voilà, voir des gens qui préparaient des super petits plats à base de produits locaux là-bas qui me faisaient rêver. Et ça créait vraiment une sensation de joie, de bien-être. J'étais heureuse de voir ces belles images, ça me faisait du bien. Et ça, c'est pareil, c'est des choses qu'on peut, dans son quotidien, faire. C'est aller chercher des choses qui nous font du bien sur Internet, par exemple. Effectivement, pour moi, Internet est devenu une porte pour chercher des choses qui me plaisent, qui m'enrichissent.
Je vais volontairement dans le négatif alors que tu essayes de nous vendre du positif. Et c'est très bien. Tous ces documentaires, les documentaristes, témoignent aussi de la perte du sauvage, de l'avancée des catastrophes liées au changement climatique et de la pollution, qui fait des ravages dans ces belles îles du Pacifique, par exemple, sur les lagons, etc. Ces derniers documentaires, peut-être, nous montrent... les derniers endroits beaux, mais qui sont de plus en plus circonscrits. J'ai presque envie de te provoquer dans le sens où, si on est en permanence dans une espèce d'illusion, de rêve qui nous fait du bien pour être soi-même dans la joie, alors peut-être que, comme tu le dis, l'ensemble de la population ira vers un projet de vie différent. Mais en attendant, on a un peu l'impression que c'est se mettre des œillères aussi... Alors, face à ce qu'il faudrait faire.
Aller vers le beau, regarder des belles images, voir des gens qui vont bien, qui font du surf, de la planche à voile dans les Bahamas et tout ça, et qui dégustent une super bonne langouste ou voilà. Ça n'est pas se mettre des œillères et ça n'est pas être dans le déni de ce qui se passe. C'est juste essayer de contrebalancer la tendance dans laquelle on baigne en permanence si on n'y fait pas attention. C'est juste, ok, il y a des choses compliquées et difficiles qui se passent, mais oui, il y a aussi des choses belles et géniales qui se passent. Parce que dans ce cas-là, si on reste dans le négatif en permanence, à regarder le monde comme dans quel état déplorable il est, ça veut dire qu'on fait aussi un déni de ce qui est génial et de ce qui se passe de beau et d'incroyable dans notre monde.
C'est vrai.
C'est aussi regarder tout ce qui est super beau et ce qui se passe, voilà, les initiatives à travers le monde qui sont merveilleuses et magnifiques.
C'est vrai, pour les gens qui aimeraient bien les chiffres, il y a peut-être que 40% du monde qui est moche et 60% qui est très beau. Et on nous montre que les 40.
Alors,
c'est un peu ce que tu dis.
Ouais, ce dont il faut se méfier aussi, c'est plus on va regarder les choses négatives et plus on va se conditionner à se focaliser sur ce qui ne va pas. Et on va ne plus être en capacité de voir le verre à moitié plein. On ne va être que focaliser sur le verre à moitié vide. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut travailler en thérapie. C'est apprendre à changer son focus. Apprendre à regarder différemment les événements, le monde extérieur, l'environnement, son entourage. Il y a toujours une partie à moitié pleine du verre. Il faut réussir à le voir, être en capacité de le voir.
Pardon. Je me suis étouffé avec mon thé. Alors qu'au contraire, il était très bon. Comment est-ce que ce message-là, de changer son paradigme plutôt que de voir le négatif sur une situation, de voir toujours l'aspect positif de ce que la situation développe.
De voir aussi, ouais. Alors, dans le changement de paradigme, par exemple, il y a arrêter de dire c'est ça ou ça, mais dire c'est ça et ça.
Première leçon.
Voilà.
Voilà.
Il me manque ça, oui, mais j'ai ça aussi.
Donc, il y a des guerres partout, mais il y a aussi des endroits où on peut surfer en toute tranquillité.
Voilà, exactement.
À peu près partout aussi. Voilà.
Effectivement. Dans les autres outils aussi, tout ce qui est anticipation ou projection négative, c'est arrêter dès que la situation ne se passe pas exactement comme on l'a projeté, commencer à se faire des scénarios négatifs. Et commencer à imaginer le pire. Alors ça, c'est en fait, on va dire, au départ, c'est une qualité de notre inconscient. C'est, puisque lui, il veut absolument la survie de notre être, c'est il va imaginer le pire des scénarios pour qu'on puisse survivre à ça, pour qu'on anticipe et qu'on ait du coup les solutions, les capacités pour survivre à ça. Sauf que là, dans notre vie actuelle, moderne, contemporaine, on n'a plus besoin d'affronter ni des tigres à dents de sable, ni lions, ni des dangers de cette sorte-là. Mais le mécanisme existe toujours. Alors j'ai par exemple eu le témoignage d'une amie justement ce week-end qui me disait que son mari devait déposer une lettre de démission à son patron parce que ça ne se passait pas très bien. Et comme il a commencé à mettre un petit peu de temps pour rentrer, elle a commencé à s'inquiéter et puis a commencé à s'imaginer des choses terribles, qu'il était en train de s'empoigner avec son patron, qu'ils étaient en train de se taper dessus, que la police allait arriver, que ça allait finir au commissariat. Enfin bref, elle a commencé à se faire un scénario catastrophe incroyable, alors qu'en fait, non, c'était juste qu'en chemin, il avait croisé un ami et qu'il avait papoté avec. Seulement, elle s'était mise dans un tel état de stress
qu'elle s'en est... Parce que la situation de départ lui faisait peur. Le fait que son mari démissionne lui faisait déjà peur.
Non, en fait, ils étaient contents parce qu'ils avaient envie de changer, ils avaient envie de quitter la région.
Oui, donc, mais pour quelle raison elle aurait pu s'inquiéter du fait que ça se passe mal?
Parce qu'on a ces tendances-là, parce qu'elle pensait qu'il allait mettre juste sa démission, que ça allait prendre 5 minutes et puis qu'il allait rentrer. Pour elle, le fait qu'il ne rentre pas tout de suite, c'était ça qui n'était pas normal.
C'était donc ça la qui projection était déjà sur le fait que ça devait prendre que 5 minutes.
Voilà, c'est ça.
Okay.
C'est ça. En fait, on est tous à s'imaginer des scénarios catastrophes. Mais elle s'en est rendue vraiment malade. Donc, c'est comprendre que qu'est-ce qui nous met dans des émotions négatives ou positives, c'est nos pensées. Nos façons de penser, nos façons de voir le monde vont du coup générer des émotions. Donc, si on est plutôt quelqu'un pessimiste, s'inventer tout le temps des scénarios catastrophes, à être anxieux de nature, entre guillemets, parce qu'on n'est jamais anxieux de nature, on le devient. On a cette facilité, en fait, à créer des pensées négatives et à nous mettre dans des émotions négatives qui vont générer du mal-être, du malaise, voire même nous rendre carrément malades. Et c'est comme ça qu'avec le temps se déclenchent aussi les maladies. Les maladies, ça va être une usure prématurée de notre organisme par rapport à des fonctionnements répétés. Donc si on est tout le temps dans des mêmes schémas de culpabilité, de colère, de frustration, on va créer dans notre organisme une usure prématurée de certaines fonctions de notre organisme.
Et puis suffisamment de faiblesses psychologiques peuvent atteindre l'état physique également, ne serait-ce que pour tomber de fatigue ou attraper le premier virus qui passe. Quoi.
Le stress va demander énormément d'énergie. Donc, à partir du moment où on a des émotions négatives, on va dire inconfortables, et ça, je suis bien placée pour dire qu'on peut en avoir tous les jours, voilà, du matin jusqu'au soir. On peut s'inquiéter de tout, on peut s'affoler de tout, on peut...
Tiens, par exemple, toi, tu étais complètement inquiète de cette rencontre, affolée de parler à la radio.
Ouais.
Alors, qu'est-ce que tu as fait?
Alors, eh ben justement...
Des papiers.
J'ai bossé. Voilà. J'ai bossé pour me rassurer, pour avoir une sensation de maîtriser, de... Je sais que quand on est en état de stress, eh ben on a moins facilement les mots qui nous viennent. C'est, comme on dit, tout le monde a... Enfin, on a tous passé des entretiens d'embauche ou passé des oraux. Et c'est le trou noir. On ne se rappelle plus. On a oublié. le vocabulaire nous manque ou des choses comme ça. Donc, j'ai bossé. Ça fait depuis une semaine que tous les jours...
Ah là là. Pardon. Hein.
non, mais c'est mon besoin à moi. Hein. C'est ça, voilà. Je bossais, je réfléchissais à ce que je pouvais dire et tout ça pour arriver ici et être la plus rassurée possible. Après, on va dire qu'il y a du stress ponctuel par rapport à un événement donné et tout ça, comme par exemple venir parler devant un micro. Ça, c'était un événement qui crée un stress ponctuel. Quand j'aurai fini, je vais revenir à la normale. Mon organisme va revenir à son équilibre. Je vais sortir du stress. C'est un stress ponctuel. Ce qui se passe quand on est bombardé d'informations comme on a actuellement ou qu'on nous a transmis des mécanismes de peur, d'inquiétude, de culpabilité, de colère dans notre famille, en fait, on développe des stress chroniques. Et c'est là où on développe aussi la maladie, plus facilement.
Donne-nous encore un peu des...
Déjà, il y a aussi toutes les thérapies possibles et inimaginables, hein. Que ce soit aller donc faire une psychothérapie, que ce soit la sophrologie, l'acupuncture, ça m'a beaucoup aidée aussi. L'acupuncture, pour moi, m'a reboosté mon organisme au niveau énergétique, ce qui m'a donné vraiment cette sensation de me sentir beaucoup plus forte, bien plus capable d'affronter les difficultés. Voilà, plus de confiance. Un mental qui s'emballait moins. Donc, du coup, des pensées qui arrêtaient de divaguer dans tous les sens. Donc, un émotionnel aussi plus calme. Donc, ouais, l'acupuncture, par exemple, ça m'a bien aidée. Dans les choses qui sont peut-être plus accessibles, on a parlé de la musique, mettre du beau autour de soi, mettre du beau dans sa vie. Les relations aussi. C'est aller vers des gens qui nous font du bien. Ne pas attendre une invitation, ne pas attendre de les croiser par hasard, mais provoquer davantage les rencontres. Moi, je sais que...
Malheureusement, en cette période, justement, et tu n'es pas la première qu'on reçoit à cette antenne, hein, pour dire que contre toute attente et contre toutes ces logiques d'enfermement, de confinement, de couvre-feu, il faut au contraire... qu'on reste des êtres les plus sociaux possibles,
ouais.
pour ne pas tous tomber malades tout seuls dans nos cages à poules.
Voilà, c'est vraiment oui, aller vers les autres et aller vers ceux qui nous font du bien. Savoir se positionner par rapport à ceux qui vont être dans un discours de victimisation, de dramatisation, leur dire stop, là c'est bon, il y en a assez, on va parler d'autre chose, on va parler de choses qui nous font du bien. C'est s'organiser des petits repas entre amis. Voilà, donc le relationnel, ouais. Là, c'est, à mon avis, quelque chose qui peut nous aider à aller mieux. Et aller vraiment vers les relations qui nous font du bien. Ouais. Les gens qui nous font du bien.
On fait le tri, on en profite alors.
Voilà, c'est dans les moments difficiles, comme ça, c'est un peu faire, oui, le tri. Le rire, ah bah oui, le rire. Là aussi, le rire, bah, c'est peut-être un peu difficile de dire, c'est gentil de me dire le rire, mais bon, je ne peux pas, d'un claquement de doigts, me mettre à rire comme ça. Eh bien, voilà, de priver mes enfants de la télévision et de leur apprendre à aller chercher des choses sur Internet. On a trouvé tout plein de spectacles d'humoristes. Le festival de Montreux, par exemple.
Qui, depuis le confinement, allez, faisons l'heure de la pub, lâche toutes ses vidéos, tous ses enregistrements
merci.
Sur sa chaîne YouTube.
Merci, c'est super. Et donc, c'est souvent que le soir, après le repas, on se met toute une série de vidéos comme
et
ça.
Et pourtant, eux, ils rigolent de choses pas très positives.
Ouais, oui, bah, tourner en dérision, tourner les choses en dérision aussi. Ouais, c'est important. Il y a un outil aussi qui est très facile à utiliser, à la portée de tout le monde, c'est les post-it. On est tellement conditionné à fonctionner d'une certaine façon, on a tellement des habitudes prises depuis longtemps, que de se rappeler, ah oui, qu'il faut rire, ah oui, de se rappeler que de se mettre de la musique tous les jours qui nous fait du bien, d'appeler telle personne pour passer du bon temps avec elle, voilà, c'est... Pour réussir à se changer dans notre quotidien, moi, je mettais des post-it partout, dans ma cuisine, dans ma salle de bain, dans ma chambre.
Ce qui irradie les autres, en plus, dans ta famille, du coup, ils sont obligés de les lire. Passe devant aussi.
Voilà. Qu'est-ce que je ne veux plus ? Ah oui, râler tout le temps. Donc, je fais attention de ne plus râler, d'aller vers quelque chose de plus joyeux. Donc, c'est voilà, plein de petits post-it pour se rappeler de ce qu'on ne veut plus ou de ce qu'on veut, de ce qu'on veut mettre en place dans sa vie, dans son quotidien. Pourquoi je râlais ? Alors ça m'a explosé à la figure. Et... quand j'ai compris d'où ça prenait sa source, ça m'a épatée. Je me suis rendu compte que de me mettre en colère, que de râler, que de m'agacer, c'était une façon pour moi, en fait, de créer de l'adrénaline. Et c'était ma façon à moi pour combattre mon état de fatigue. Donc, en fait, plutôt que d'écouter mon besoin de me reposer, de prendre soin de moi, de me mettre au vert, je m'activais encore plus en râlant pour avoir ma petite dose d'adrénaline, pour me tenir...
Qui, du coup, tient éveillé.
Voilà, qui, du coup, tient éveillé.
Ouais, alors ça, c'est valable pour tout le monde. Là. Tu parles de toi, mais allez, j'invite l'auditrice et l'auditeur à se sentir concerné. Et moi-même, au passage.
Donc, c'est écouter son besoin de se reposer. Ne pas mettre la mécanique, la machine dans le rouge. Faire attention. Ouais. Mais ça, c'était un fonctionnement que j'avais qui était complètement inconscient. Par contre, j'entendais bien mes filles... me dire à la maison, maman, t'arrêtes pas de râler, quoi. T'es jamais contente, t'es tout le temps en train de râler, quoi. C'est bon, quoi. Il fallait que je trouve en permanence le petit détail qui allait pouvoir me donner l'occasion de râler. Maintenant que j'ai compris.
On aurait dit un plaisir à faire chier l'autre, mais non, en fait.
Non. C'était ma petite dose d'adrénaline qui allait venir, quoi. Ouais, super. Ouais, mais en attendant, mon organisme, lui, il s'épuisait. Et quand j'allais chez le médecin ou chez l'acupuncteur, il me disait, mais vous êtes en état d'épuisement. Je ne comprenais pas pourquoi. Mais prendre du repos, faire une petite sieste, se poser, c'était pour moi très culpabilisant. C'était quelque chose qu'on ne m'avait pas donné le droit de faire dans mon enfance. Donc du coup, j'ai appris à surcompenser. Donc ça, c'est grâce à la thérapie que j'ai pu aussi découvrir tous ces fonctionnements-là et apprendre à fonctionner différemment.
Oui, parce que là, des gens qui nous écoutent pourraient se dire « Tiens, ça me parle complètement, cette histoire de fatigue et de shoot à l'adrénaline nerveuse. » Mais on ne pourrait pas se dire comme ça « Bon, bah alors maintenant que je sais pourquoi, je me pose. » Et j'arrête de culpabiliser parce que je m'arrête. Parce que je suis en repos. C'est parfois dur dans une vie de famille... Une vie active, qu'on croit hyper timée, on a le temps de rien, il faut qu'on se dépêche.
Oui, mais ça, c'est des croyances aussi. Mm-hmm. En thérapie, on démonte énormément de croyances. Et on se rend compte qu'il y a toujours la possibilité de faire autrement. C'est vraiment s'ouvrir à cette idée que le changement est vraiment possible. Aussi minime soit-il, mais il est possible. Et puis, petit pas par petit pas, on se rend compte que ah ben, on arrive à installer ça de nouveau dans notre vie, puis encore ça, et puis encore ça, et petit à petit, on gagne du terrain. Mais c'est fondamental de comprendre que rester dans le stress, rester dans ces émotions de peur, d'angoisse, d'anxiété, de culpabilité, de frustration, c'est dangereux pour l'organisme et ça n'apporte vraiment rien de bon. C'est fondamental d'arriver à sortir de ça. Comprendre que ça n'est pas normal de baigner au quotidien dans ces émotions-là. Là, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est comprendre qu'il faut remettre ça en question et d'aller vers quelque chose d'autre. Si on prend par exemple une plante qui a besoin d'une certaine quantité de lumière, d'une certaine quantité d'eau, à un certain rythme, si vous ne lui donnez pas ce dont elle a besoin, elle ne va pas pouvoir se développer, croître et s'épanouir comme il faut, comme elle devrait. Pour nous, c'est pareil.
Elle finit même par en mourir.
Elle peut même finir par en mourir, exactement. C'est exactement la même chose pour nous. Si on ne crée pas les bonnes conditions pour croître, pour grandir, pour se développer, pour s'épanouir, on va...
En précisant là qu'il n'est pas question que d'eau, enfin de nourriture, de lumière, que d'un rapport physique. Là, on parle bien de quelque chose de psychique.
Oui.
C'est si le mental n'est pas lui-même nourri,
voilà. Si nos
le
besoins,
physique s'écroule. Ouais. Mmh.
Tout à fait.
Plus particulier que la plante, du coup. Quoique la plante a peut-être une âme, elle a beaucoup souffert de ne pas avoir d'eau.
Exactement.
On n'ira pas sur ce terrain.
Donc ouais, c'est comprendre oui, qu'on a des besoins pour se développer et que quand on est dans ces besoins nourris, on va vivre des émotions plaisantes, agréables, on va être dans le bien-être. Donc là, c'est OK. Là, c'est que les conditions dans notre environnement viennent combler ce qui nous est nécessaire à notre développement, à notre épanouissement. Et que si on ressent des émotions négative, c'est que nos besoins là ne sont pas nourris, donc c'est qu'il y a quelque chose dans notre environnement qu'il faut modifier.
Ça paraît tellement simple, dit comme ça.
C'est vrai. Alors dans les petits outils aussi simples qu'on peut mettre en place, c'est d'aller marcher dans la nature. On sait que, par exemple, les forêts sont un environnement où il y a des ions négatifs. Et que quand nous, on est, par exemple, en état de stress, on se met en ions positifs. Donc, aller marcher en forêt, c'est une façon aussi de neutraliser quelque part notre stress. De nous remettre dans un état de sérénité. La marche aussi, on a découvert que la marche favorisait le sentiment de sécurité. Je ne pourrais pas expliquer exactement pourquoi, mais c'est ce qu'on a découvert. Donc, aller marcher dans la nature et dans la forêt, ça aussi, c'est un superbe antidote pour le stress ou l'anxiété.
Et puis, c'est beau.
C'est beau, ça fait du bien, c'est accessible, c'est gratuit. Et puis, dans la région où on est, c'est que du bonheur, quoi. Donc, allons-y. Ah, je pourrais rajouter aussi les exercices de respiration et la méditation. Ça, on est en train de se rendre compte à quel point la méditation a effectivement d'énormes bienfaits sur notre organisme, sur la santé, sur notre système immunitaire, sur le rythme cardiaque, sur vraiment ça englobe énormément de choses. Donc, trouver les moyens de méditer. Alors moi, j'ai ma fille, par exemple, qui m'a offert pour mon anniversaire un CD sur différentes petites méthodes de méditation. Là, pareil, sur Internet, hein, on peut trouver tout plein de méditations guidées quand on ne sait pas faire. Il y a juste à aller sur Internet et là, on a accès à tout plein de bonnes choses. Donc, les méditations de pleine conscience. Il y en a qui sont présentées par Christophe André. On entend souvent sur France Inter. Et les exercices de respiration aussi. Cohérence cardiaque, ça aussi c'est des choses, des petits outils qu'on trouve très facilement gratuitement sur Internet. Et ça c'est nécessaire de les mettre en place dans son quotidien pour que ça ait vraiment un impact sur notre organisme. Donc la méditation va nous aider par exemple à calmer le mental, à prendre du recul, donc à calmer l'émotionnel aussi.
Mais quand on médite, on arrête de cogiter quand on est arrivé au... Qu'on est bon. Hein.
Ouais, quand on est bon. Alors, ou alors, il y a un exercice. Alors, arrêtez de cogiter, moi, j'y arrive pas. Personnellement, j'y arrive pas. Par contre, m'obliger, me forcer dans un premier temps, parce que maintenant, ça commence à devenir de plus en plus facile et naturel, à avoir des pensées agréables sur des situations super agréables, positives. Envisager mon futur. Par exemple, un projet de départ en vacances, m'imaginer professionnellement avec un super cabinet, tout ça. Voilà, vraiment essayer de projeter des choses super positives, super joyeuses, pour justement contrebalancer ces pensées négatives qu'on a trop facilement, qui se sont mises en place... trop facilement à notre insu et qui sont devenus des habitudes, des réflexes de pensée. Voilà, c'est instaurer en nous de nouveaux réflexes de pensée par la visualisation, justement. Rêver.
On fabrique son rêve, on ne le
voilà.
Subit plus.
Voilà, on ouais. Fabrique. Oui, tout à fait. Je décide de me voir sur une plage des Bahamas avec un super cocktail. Je décide de visualiser, de vivre tout ça. Plus on va avoir des pensées qui vont s'accompagner d'émotions qui correspondent à ces pensées, par exemple l'idée d'avoir un super cabinet avec plein de clients et tout ça, ça crée en moi de la joie, de la satisfaction, de la fierté. Donc de vivre ces imaginations-là, ces pensées-là et de les accompagner d'émotions, ça ancre. En fait, c'est comme ça qu'on va ancrer en nous de nouveaux mécanismes. On va écraser l'ancien fonctionnement en instaurant un nouveau programme.
Et a priori, si tu restes dans ces pensées positives-là, il n'y a pas de raison à ce que ton cabinet soit moche, avec peu de clients.
Exactement. Exactement.
Alors ça, tu le fermes parce que tu n'as plus envie.
Voilà, exactement. On c'est se rendre compte aussi à un moment donné que de se visualiser un futur avec des super conditions et tout ça, c'est comme si quelque part on émettait l'ordre à notre inconscient, à tout notre être, de se diriger dans cette optique-là. Et du coup, c'est comme ça qu'on va faire les bonnes rencontres, voir les bonnes opportunités, prendre les bonnes décisions. On est en train déjà de créer en nous tout ce qu'il faut pour aller dans cette bonne direction-là. Et c'est aussi comme ça qu'on peut aussi changer notre vie. Ça, c'est presque de la physique quantique, quoi. Nos pensées sont un champ électrique et nos émotions, c'est un champ magnétique. Donc, on crée autour de nous un champ électromagnétique. Du coup, on devient comme un aimant et on va attirer des situations qui correspondent à l'aimant que nous sommes. Mais ça, c'est peut-être nous emmener un peu trop loin. Là.
C'est une bonne conclusion. Sylvie, en parlant de cabinet, d'ailleurs, t'en as un.
Oui.
Tu nous dis où il est ?
À Saint-Martin-en-Vercors. Après, je peux recevoir chez moi à 10 s'il y a des personnes qui sont intéressées, effectivement. Et sinon, voilà, c'est à Saint-Martin-en-Vercors pour l'instant.
Et tu proposes de transmettre tout ce que tu sais en dehors de cette émission ? Je sais pas, tu fais des stages, des rencontres avec d'autres ?
Eh bien, mettre en place des ateliers, bah, ça sera en fonction de la demande. Parce que pour moi, vu que tout ça, c'est une première, donc je ne sais pas quelles conséquences ça va avoir. Est-ce que, du coup, est-ce que des gens, suffisamment de personnes seraient intéressées pour faire des ateliers, justement, pour un peu mieux gérer les émotions négatives, le stress, comment mettre en place des choses concrètes facile, accessible. Pourquoi pas ? Ça sera fonction de la demande. S'il y a, avec plaisir, vraiment.
Alors, comment on te joint ?
Grâce à un numéro de téléphone, déjà. Donc, c'est le 07 86 82 73 29. Et puis, j'ai peut-être des petites cartes de visite qui doivent traîner un petit peu partout. J'ai pas de site internet encore, mais ça peut être une prochaine étape aussi. Mais voilà, déjà avec mon numéro de téléphone.
Eh bien, je te remercie d'être passé nous voir.
C'est moi qui vous remercie. C'est vraiment super gentil de m'avoir permis de contribuer à mon niveau, à apporter quelque chose. J'espère que j'ai pu apporter un petit quelque chose.
De la réflexion, en tout cas. Et belle journée à toutes et tous sur notre antenne.
Interview.
Hey, the bird.
L'interview du jour.
L'interview du jour.